Dire que Dieu est parole n'est pas d'une grande originalité, ce n'est pas nouveau, mais c'est néanmoins très essentiel. On le sait bien, en effet, en particulier grâce à ce beau prologue de Jean qui nous le rappelle, que Dieu est parole, que tout a été fait par la parole et que c'est la chose la plus essentielle au monde. Et en même temps, pour moi, dire que Dieu est parole est peut-être l'une des choses les plus saines que l'on puisse dire sur Dieu, et j'avoue que c'est ce qui définit le mieux le Dieu dans lequel je crois. Parce qu'en effet, la parole, c'est une puissance considérable dans le monde. La parole est une force très importante. Et pourtant, la parole n'est pas une force contraignante. C'est-à-dire que par la parole, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. On ne peut que suggérer, on ne peut que appeler, on ne peut que informer, demander, supplier. Et je crois effectivement que Dieu est dans le monde comme une puissance de parole. C'est-à-dire que Dieu n'agit pas dans le monde d'une façon brutale, magique ou extérieure, voire même matérielle, mais que Dieu agit dans le monde d'une façon douce et intérieure, et non contraignante, d'une manière qui laisse en quelque sorte la liberté au monde d'écouter ou de rejeter cette parole. Je pourrais même aller un petit peu plus loin en disant que une parole n'est efficace que si quelqu'un l'écoute, et que en soi, une parole dite dans le vide n'a absolument aucun effet. L'effet d'une parole suppose que quelqu'un écoute, suppose qu'il y a quelqu'un qui met en œuvre cette parole. Et peut-être pourrions-nous aller jusqu'à dire que finalement, l'essentiel de l'action de Dieu dans le monde passe par ceux qui vont bien vouloir écouter sa parole et la mettre en pratique. La parole en elle-même ne provoque rien d'immédiat. Pour que la parole agisse, il faut que quelqu'un agisse en conformité avec cette parole. Il faut donc qu'il y ait un serviteur. Alors, cela, je le crois assez. Et que finalement, nous sommes donc nous-mêmes, en quelque sorte, les bras agissants de la présence de Dieu dans le monde. Et tout ce que nous voudrions que Dieu fasse dans le monde, eh bien, nous n'avons qu'à essayer de le répercuter ou de le faire nous-mêmes dans le monde. Et la volonté de Dieu sera faite dans le monde si l'homme veut bien s'y atteler. Néanmoins, il y a une petite faiblesse dans cette vision parce que je crois que la puissance d'action de Dieu dans le monde a été effective avant même qu'il y ait des êtres humains pour écouter cette parole. Et déjà, si l'on croit que Dieu est créateur, il faut bien croire que de tout temps, cette parole a quand même provoqué quelque chose, même sur le monde matériel, en quelque sorte. Mais néanmoins, je crois que déjà à l'époque, la parole de Dieu, l'action de Dieu était une action créatrice, mais si vous voulez, pour dire à quelque chose de matériel de devenir autre chose que ce qu'il est, sans doute faut-il lui répéter extrêmement longtemps. Et en effet, pour passer de la molécule à la bactérie, il a fallu pour Dieu des milliards d'années, et donc ce n'est pas une action très rapide. Alors qu'au contraire, dès le moment qu'il y a une intelligence et une écoute, l'action peut être beaucoup plus rapide. Je n'ai pas le temps de trop développer cette question maintenant, mais néanmoins, je crois que même dans le domaine du monde matériel, l'action de Dieu est une parole, dans le sens que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'information, de l'organisation, et il est plutôt une puissance cosmique qui pousse le monde en douceur et en respect de ce monde à être finalement autre chose que ce qu'il est. Mais néanmoins, pour nous aujourd'hui, si Dieu est parole, la question est de savoir d'abord comment cette parole nous parvient et comment pouvons-nous entendre ou écouter cette parole. Alors en général, on dit qu'il y a, différents vecteurs de cette parole, et en particulier, j'en vois trois. Le premier, il est bien connu, c'est la Bible. On dit souvent que la Bible est la parole de Dieu. Alors bien sûr, je ne crois pas que Dieu ait dicté la Bible ou que les mots de la Bible aient été dictés tels quels par Dieu, mais parce que la Bible est faite de témoignages humains sur Dieu en quelque sorte. Mais néanmoins, je crois quand même que la Bible est parole de Dieu et je vais vous dire Pourquoi ? Parce que quand on dit que Dieu est parole, on ne veut pas dire que Dieu est une sorte de discours auquel il faudrait adhérer. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce n'est pas une information à laquelle il faudrait dire oui ou non, j'y crois ou je n'y crois pas. Le propre de la parole de Dieu, on l'a vu dans le prologue de Jean, c'est que la parole de Dieu est une parole créatrice. Et en général, on dit d'ailleurs dans la Bible, dans les prophètes, que la preuve que la parole de Dieu est vraie, c'est qu'il dit une chose et que cette chose survient. C'est-à-dire que la parole de Dieu crée quelque chose de neuf et d'inattendu. Et ainsi, je crois que la Bible est parole de Dieu, non pas en tant que contenu, non pas en tant qu'il serait divinement une parole de Dieu, que la mer Rouge se serait séparée en deux pour laisser passer le peuple, ou que Adam et Ève aient existé, mais en tant que celui qui lit la Bible est confronté à une parole qui va le créer, qui va le transformer, qui va le bonifier, l'améliorer et le transfigurer. Et en ce sens, c'est d'une manière empirique, je dirais, parce que je l'ai expérimenté et que depuis des milliers d'années, les croyants, aussi bien juifs que chrétiens, expérimentent qu'il y a dans le fait de se frotter au texte de la Bible quelque chose qui transforme le lecteur et qui le transforme d'une manière bonne et positive. Et ainsi, je peux dire que la Bible est bien parole de Dieu, parce qu'il y a dans cette Bible une parole créatrice qui transforme celui qui le lit, indépendamment, je dirais, enfin indépendamment, en tout cas sans forcément s'attarder en première lecture au contenu historique, concret ou matériel de ce qui est affirmé, ou de sa vérité dogmatique. L'autre point, c'est que les chrétiens, deuxième point donc, les chrétiens disent, comme dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 14, que cette parole de Dieu, elle s'est incarnée en un homme, Jésus-Christ. Et donc ça, c'est le deuxième contact que nous pouvons avoir avec la parole de Dieu, c'est que pour nous, cette parole, elle se trouve dans le Christ. Alors me direz-vous, pouvez-vous le prouver ? Eh bien justement, non, parce que je crois que là se trouve précisément l'acte de foi. La foi chrétienne consiste à dire « je crois que la parole de cet homme Jésus-Christ est parole de Dieu ». Parce que je crois que cette parole-là, qui nous est visible en Jésus-Christ, par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a vécu et ce dont il a témoigné, je crois que cette parole-là est une parole créatrice, positive, essentielle et fondamentale pour le monde. Et je crois que cette parole-là est une parole de vie. Et c'est donc là, je dirais, un acte de foi, mais un acte de foi essentiel. C'est que tout être humain doit, à un moment ou l'autre, se déterminer sur ce qu'il croit reconnaître comme étant parole de Dieu ou non. Le chrétien dit « Pour moi, Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la parole de Dieu ». Et une fois de plus, je crois que c'est vrai, et qu'il y a bien dans cette parole, dans cette façon d'être du Christ, un discours, une fois de plus, créateur, un discours novateur, et un discours qui dit ce que devrait être le monde dans l'idéal, ce que vers où nous devrions tous nous conduire. Et il y a également dans le Christ une puissance et une source de vie, de nouveauté extraordinaire pour quiconque s'y frotte. Et puis enfin, le troisième point, c'est que il y a aussi un autre mode de parole de Dieu, qui est la parole intime, la parole que Dieu nous dit dans notre cœur, dans la prière en particulier. Et quand nous prions Dieu, quand nous essayons de rechercher cette présence de Dieu, eh bien Dieu nous parle dans notre cœur. Alors certes, Dieu nous parle ne nous parle pas avec des mots simples, comme moi je vous parle là, et les paroles de Dieu, ce que Dieu nous dit dans notre cœur, ce ne sont pas des phrases nécessairement articulées, mais je crois néanmoins que Dieu parle au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, et je suis persuadé que dans cet exercice extraordinaire de recueillement, d'approfondissement, de méditation de la prière, il y a quelque chose qui nous est dit. Et dans la prière, on peut découvrir quelque chose. On peut voir les choses autrement. On peut voir ce que nous ne voyons pas avant. On peut découvrir un autre aspect des choses. Et on peut s'ouvrir à de très grandes nouveautés. Alors là encore, cette dernière parole est peut-être la plus extraordinaire, dirais-je. Mais néanmoins, il y aurait un grand danger à croire qu'elle pourrait suffire, parce que ce type de transmission est éminemment suspecte, parce qu'il y a toujours le risque que, plutôt que d'écouter une vraie parole de Dieu qui soit une parole extérieure, nous soyons finalement à l'écoute de nos propres désirs inconscients, en quelque sorte. Et donc, il faut faire attention à ne pas abuser, dirais-je, de la prière, ou tout au moins que cette prière soit régulée par un certain nombre d'instances objectives qui permettent de faire en sorte que nous ne tombions pas dans le fantasme pur et simple. Et ces régulations objectives, ce sont justement la Bible, un texte objectif qui, lui, n'est pas la projection de mon propre fantasme. C'est justement la communauté. Je ne suis pas chrétien tout seul, mais je me confronte avec d'autres, et donc je vois si ce que je crois entendre de Dieu, c'est un délire, ou si finalement je le partage avec d'autres. Le fait de le partager avec d'autres est déjà un signe d'une certaine objectivité. Il y a aussi le fait que dans cette même communauté, nous soyons enracinés dans un passé, et de dire, ben vous voyez, hein, ça fait quand même, 2000 ans pour le christianisme ou 500 ans pour la réforme, que des générations après générations, nous partageons cette vision des choses, et donc ce n'est pas ma propre lubie. Et également peut-être aussi que nous restons aussi en dialogue avec les nouvelles générations, et voir comment les nouvelles générations conçoivent les choses, c'est aussi se confronter à quelque chose qui n'est pas moi. Mais cette parole intérieure, cette voix du cœur, ce qu'il y a d'essentiel, je crois, c'est que pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir la recevoir, encore faut-il faire un petit peu silence. Et donc, après avoir tant parlé de la parole, je dirais que cette parole de Dieu ne peut effectivement se sonner en moi que si en moi il y a un peu de silence. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a trop de bruit, trop d'activités, trop de paroles. Et aujourd'hui, nous ne supportons pas le silence. Moi-même, dès que je suis quelque part, j'allume la radio, j'allume un poste. Enfin, on ne reste pas dans le silence aujourd'hui. C'est quelque chose d'insupportable. Même dans les magasins, même dans les stations de métro, on nous met de la musique parce qu'on ne veut pas rester dans le silence. Et pourtant, si l'on veut entendre cette parole de Dieu, il faut savoir faire un peu de silence en soi. Parce que si notre vie est sans arrêt bourrée de paroles, d'activités, de choses à entendre et à dire, il n'y a plus de place pour le reste. Or, la parole de Dieu est une parole ténue. C'est une parole très douce, une parole très, très faible en quelque sorte, très mystérieuse. Et certainement qu'elle est la première à disparaître dès qu'il y a un petit peu de bruit quelque part. Et pour pouvoir entendre cette parole très douce, très mystérieuse, il faut un vrai silence. La Bible a toujours dit qu'il fallait aller dans le désert pour rencontrer Dieu. Donc vous voyez, c'était déjà vrai il y a 2 ou 3 000 ans. Et aujourd'hui aussi, il faut trouver d'une certaine manière un désert, faire silence, qu'il n'y ait rien. Rien qui nous dérange, rien d'autre que la possibilité d'entendre Dieu pour entendre l'essentiel, parce que sinon nous n'entendrons rien. Et je crois que le premier pas de toute démarche spirituelle consiste à se ménager dans sa vie, dans sa journée, un temps de silence et un temps où l'on ne fait rien, simplement où l'on est à l'écoute. Et puis, il est vrai aussi que cette parole de Dieu, on dit que Dieu est parole dans la Bible, c'est vrai, mais on dit aussi, et ça m'a intéressé, que Dieu est avant tout souffle. Dieu est souffle. Vous savez que le mot esprit veut dire le souffle. Et le fait que Dieu soit souffle, ça m'intéresse parce qu'un souffle, en soi, ne fait aucun bruit. Le souffle, on l'entend quand il choque quelque chose. Bon, par exemple, le vent ne s'entend que lorsque il touche le sommet des grands pins. Et à ce moment-là, on entend le bruit du vent. Et pour que le vent s'entende, il faut donc qu'il touche quelque chose. Et je crois que la parole de Dieu est du même type. Parce que la présence de Dieu est comme un souffle, et si nous ne faisons rien pour arrêter ce souffle et pour qu'il résonne en nous, alors il nous passera à côté sans que nous l'entendions. Très longtemps aussi, dans la mystique chrétienne, on a comparé l'être humain à un tuyau d'orgue ou à un instrument à vent, et nous sommes comme des tuyaux d'orgue. Lorsque le vent passe à travers nous, eh bien, si vraiment nous sommes comme un instrument à vent, alors il va rendre un son. Mais en soi, la parole de Dieu n'a pas de son. Le son ne se provoque que lorsqu'il y a quelqu'un qui l'écoute. De même que la Bible, en soi, n'est pas parole de Dieu. Elle n'est parole de Dieu que lorsqu'elle est lue, que lorsqu'il y a un croyant qui lit cette parole et qui se laisse transformer par elle. Alors, la parole de Dieu surgit quand l'on lit cette parole. Et c'est ce que disait Calvin d'une certaine façon quand il disait, quand on lui demandait « Mais qu'est-ce qui prouve que la Bible est la parole de Dieu ?» Il disait « C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. » Ce qui ne veut rien dire, si ce n'est que la Bible devient parole de Dieu pour celui qui la lit et la présence de Dieu devient parole pour celui qui la laisse résonner en lui. Alors cette parole, à quoi ressemble-t-elle ? Bien, je crois que sa caractéristique essentielle, c'est que, par définition, c'est une parole nouvelle. C'est une parole créatrice. C'est une parole qui fait du neuf, de l'inattendu. Ou alors, c'est une parole créatrice dans le sens qu'elle organise autrement et qu'elle réorganise. Et donc, une des plusieurs caractéristiques de cette parole de Dieu, c'est d'abord que c'est une parole dérangeante. La parole de Dieu n'est pas forcément ou n'est peut-être pas le plus souvent une sorte de parole suave qui nous caresse dans le sens de notre poil pour nous conforter, pour nous dire ce que nous aimerions entendre. Mais la parole de Dieu est nécessairement une parole inouïe, une parole neuve, une parole extraordinaire. Le fait qu'une parole soit dérangeante ne prouve pas qu'elle soit parole de Dieu, mais la parole de Dieu est forcément un petit peu dérangeante. Regardez l'exemple d'Abraham. Abraham, qui entend ce Dieu qui lui dit « Va, lève-toi, quitte ta famille, ta patrie, ton pays, tout ce que tu as et va dans le pays que je t'indiquerai », cette parole d'Abraham est extraordinaire parce que ce Dieu qui lui parle n'est pas celui de ses ancêtres. Ce Dieu qui lui parle n'est pas le sien et il l'envoie sur un chemin qui n'est pas non plus celui qu'il avait prévu, qui n'est pas celui de sa tribu, qui n'est pas celui de ses projets personnels. C'est une parole de Dieu qui, comme toujours, l'envoie ailleurs que là où il était. Et donc, pour recevoir cette parole, nous devons croire que la parole de Dieu nous dépasse toujours fondamentalement, et que donc nous ne pouvons pas réduire la parole de Dieu à notre propre discours. Il faut en quelque sorte respecter la transcendance de Dieu et ne pas s'approcher de Dieu en attendant de lui un discours qui serait celui d'une sorte de copain sympathique. Mais nous devons, je crois, dans la recherche de la parole de Dieu, avoir une sorte de sens du sacré et de la transcendance, et attendre de Dieu et se présenter à Dieu comme devant attendre de lui quelque chose d'extraordinaire et d'inhabituel. D'autre part, cela veut dire aussi que nous ne devons pas faire comme certains chrétiens qui demandent tout et n'importe quoi à Dieu. Il y a un beau passage de l'Ecclésiaste qui nous dit « Rappelle-toi une chose, c'est que Dieu est dans le ciel et que toi tu es sur la terre. » C'est donc nous devons garder ce sentiment de la transcendance de Dieu. Il y a une différence fondamentale entre Dieu et nous. Et par conséquent, il ne faut pas croire que la parole de Dieu pourrait se mêler de tout et de n'importe quoi. Et donc certains chrétiens qui demandent au Seigneur ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire demain, s'ils doivent habiter à Paris ou à Montpellier ou à Nîmes, je crois que ces chrétiens, d'une certaine façon, se trompent. Parce que c'est invoquer le nom de l'Éternel en vain et c'est ne pas concevoir que la parole de Dieu est justement une parole qui ne se mêle pas des affaires bassement terrestres, mais c'est une parole transcendante. Et puis enfin, certainement, faut-il dans notre vie maintenir de l'ouverture, maintenir de l'attention, du respect, de la disponibilité, parce que ce n'est pas une parole toute faite, comme un discours clos dans lequel il faudrait se tenir, mais cette parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut nous envoyer ailleurs que là où nous sommes. Alors ça, c'est la belle théorie. Maintenant, il arrive que Dieu ne parle pas. Et ce silence de Dieu que nous évoquions dans le titre même, ce silence de Dieu peut être parfois l'impression que Dieu ne nous parle pas, parce qu'il n'est pas si simple d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler du silence de Dieu, en particulier, on l'a beaucoup dit à propos du judaïsme dans la Shoah. Alors Dieu a laissé faire, comment est-ce que Dieu s'est tu dans cet épisode? Alors ce silence de Dieu, d'où peut-il venir? Il peut venir d'abord peut-être d'une surdité de ma part. Et peut-être qu'avant de dire pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas, peut-être dois-je me dire que c'est peut-être parce que c'est moi-même qui ne l'entends pas. Et plutôt que d'accuser Dieu de ne pas parler, peut-être devrions-nous penser que en fait, c'est nous qui ne savons pas l'entendre. Dans la pratique, Dieu parle, mais parfois nous ne savons pas l'entendre. Cela étant dit, je crois qu'il ne faut pas se culpabiliser de cet état de fait. Parce qu'en effet, il peut arriver à tout le monde, et il arrive à tout le monde, de se sentir loin de Dieu et d'être dans un état où l'on n'entend pas la parole de Dieu dans son cœur. Tout simplement parce que l'on n'a pas toujours le sentiment de la présence de Dieu. Et il faut savoir que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis un peu gêné par cette espèce de, je dirais, de terrorisme moderne et ambiant qui nous donne comme une sorte d'exigence d'être heureux et qui dit, voilà, il faut toujours vivre dans la présence de Dieu, toujours penser à Dieu, toujours avoir la foi, toujours être performant. Eh bien non, justement. Je ne suis pas toujours performant, je ne suis pas toujours heureux, je ne suis pas toujours parfait, et je ne suis pas toujours dans la foi, et je n'entends pas toujours Dieu dans ma vie. C'est comme ça. Ce qui est formidable, c'est que le judaïsme lui-même a incorporé cet état de fait. Dans le judaïsme, il y avait certains moments où Dieu parlait beaucoup, et d'autres où il ne parlait plus. Et en particulier, au moment de Jésus, le judaïsme, comme on le voit au moment... au début de l'évangile de Luc, je crois, on dit « En cette époque, les visions étaient rares. » Voilà. Ben, en cette époque, Dieu parlait peu. Il n'y avait plus de prophètes. C'est comme ça. Il y a des moments où Dieu n'est pas très bavard dans nos vies. Alors, que faire dans ces situations? Là encore, tout est bien prévu par l'Écriture, qui est très gentille avec nous, vous le voyez. D'abord, il y a... essentiellement, je dirais, il y a toutes ces paraboles. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles de l'Évangile où l'on montre Dieu comme un roi, comme un chef, comme un vigneron qui part en voyage et qui laisse la responsabilité de sa vigne au vigneron et qui s'en va. Ou qui laisse les talents à gérer à ses serviteurs et qui s'en va. Et toutes ces paraboles sont remarquables justement parce qu'elles montrent un Dieu absent. Dieu n'est pas là et il s'en va. Alors que faire ? Quand Dieu n'est pas là. Plusieurs choses. D'abord, faire comme les serviteurs. Que font les serviteurs quand Dieu est absent? Eh bien, ils agissent pour Dieu. Donc, première chose, si vous n'avez pas le sentiment de la présence de Dieu, cela ne vous empêchera pas d'agir pour lui. Donc, toujours, nous pouvons être les serviteurs de cette réalité divine. Et même si nous n'avons pas une foi débordante, nous pouvons toujours, dans ce monde, faire le bien, agir, apporter un peu de paix, gérer les affaires de Dieu et agir sur terre comme si nous étions les serviteurs et les remplaçants de Dieu. Ça nous occupe et ça ne fait de mal à personne. L'autre chose, c'est ce passage où le Christ dit aux disciples « Quand l'époux vous sera enlevé, vous jeûnerez. Pour l'instant, faites ce que vous voulez. » Le jeûne, c'était la pratique religieuse et l'époux, c'est l'image du Christ. Et donc il dit, quand vous n'aurez pas cette présence du Christ avec vous, alors il sera temps de pratiquer les rites religieux. Et ça c'est le deuxième point, c'est que si Dieu est absent, à la fois on peut agir, et en même temps on peut aussi réagir faire en sorte que l'on essaye que la présence de Dieu puisse être plus efficace en nous. Donc, le chercher. Et chercher Dieu, c'est se donner des moyens d'essayer de l'entendre. Faire silence en soi. Peut-être que la pratique religieuse est quelque chose qui peut nous aider à redécouvrir cette parole et cette présence de Dieu. Les rites sont aussi des choses qui nous aident. Et puis aussi la prière, qui est l'appel de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit de persévérer dans la prière. Et puis enfin, je ne suis pas certain que le silence de Dieu soit nécessairement toujours quelque chose de négatif. Et quand les paraboles nous montrent justement ce Dieu qui s'en va, je n'ai pas l'impression que ce soit par dépit ou en disant « vous voyez, vous êtes imparfait, donc Dieu en a marre, il s'en va » ou « il s'en va parce que vous ne savez pas le voir ». Non, je crois que Dieu s'en va volontairement parfois. Et que Dieu, d'une certaine façon, parfois s'absente. Et pourquoi s'absenterait-il ? Eh bien, il s'absente volontairement pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce que je crois que Dieu veut laisser de la place à l'homme. Et que si Dieu était toujours présent à nos côtés pour s'occuper de nous et nous dire « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela », nous ne pourrions plus rien faire. Et donc Dieu nous fait confiance en quelque sorte. Et parfois il se retire pour que nous puissions vivre, un petit peu agréablement et légèrement. Comme dans le livre de Job, où Job parfois supplie Dieu de s'éloigner un peu pour lui laisser de l'air. Et donc Dieu nous laisse de l'air. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a été développé dans les grands mouvements de la Kabbale par un petit mot amusant qui s'appelle le Tzimtzum. Et le Tzimtzum, dans la Kabbale, c'est cette idée que le Créateur crée l'univers et qu'ensuite il se retire en grande partie pour laisser de la place à sa création. Et donc, je crois que ça, c'est un point essentiel. Dieu laisse de la place à l'homme. Et que Dieu, parfois, se retire pour justement nous laisser agir, parce qu'il n'est pas un Dieu qui ferait tout à notre place. Et Dieu n'est pas sans arrêt en train de parler, il n'est pas sans arrêt en train de commander, mais il nous laisse des initiatives et des responsabilités. Et c'est comme dans la parabole des talents, Dieu s'en va, il confie son bien à ses serviteurs, il ne leur donne même pas d'ordre précis, mais il leur dit autrement, dit « faites au mieux, faites comme pour vous, débrouillez-vous ». Et il y a un peu de cela, je crois, dans ce Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui serait faite pour nous bourrer de commandements et de présence, pour remplacer notre propre pensée. Dieu n'est pas comme, vous savez, comme font ses parents quand leur enfant de 18 ans apprenne à conduire et qu'ils sont à côté en lui disant « mets ton clignotant, regarde à gauche, tourne à droite, fais attention à ceci, fais attention à cela ». L'enfant ne peut pas apprendre à conduire comme ça. Il faut à un moment donné qu'on le laisse faire. On lui dit en gros, on lui dit si c'est grave, mais il faut le laisser faire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Dieu nous laisse peut-être notre place. Il nous dit, Dieu parfois, je crois, peut répondre à notre demande même par du silence en nous disant, débrouille-toi. C'est le respect que l'homme donne à Dieu. Dieu nous charge de gérer, ce n'est pas par défaut. C'est la volonté expresse de Dieu. Et puis ce silence peut être aussi une période de maturation. Dieu n'est pas sans cesse à nous crier dessus, mais l'Évangile est souvent présenté comme une graine qui pousse. Dieu nous a donné sa parole, c'est bon, on l'a entendu. Ensuite, il faut la laisser grandir en nous, pour que ce ne soit pas une parole extérieure, comme si Dieu rêvait d'avoir une sorte de télécommande pour nous, toujours en train d'intervenir pour que nous fassions ce que nous voulions. Mais nous ne sommes pas un objet mécanique ou télécommandé. Dieu donne sa parole et il se retire, nous laissant sa parole, justement. Et c'est cette parole qui, dans le silence de Dieu et dans notre propre silence, va pouvoir grandir, progresser et mûrir, en quelque sorte. Et puis enfin, la dernière chose essentielle dans le silence de Dieu, c'est que je crois que Dieu nous écoute. Cela, on l'a entendu dans le psaume 116. « J'aime l'Éternel parce qu'il entend la voix de ma parole, de ma supplication. » Et si Dieu écoute c'est qu'il fait silence. Et que justement, si Dieu était sans arrêt en train de parler, si Dieu n'était que parole, il ne pourrait pas nous écouter. Mais la relation entre l'homme à Dieu et Dieu n'est pas une relation à sens unique. Ce que Dieu veut de l'homme, c'est un vis-à-vis. Et donc la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation de dialogue, d'écoute mutuelle. Alors c'est vrai, si l'un parle, il faut que l'autre se taise. C'est nécessairement comme cela. Et donc, je l'ai dit au départ, pour entendre la parole de Dieu, il faut que nous fassions silence en nous. Mais pour que Dieu nous entende, il faut aussi que Dieu fasse silence. Et que Dieu ne soit pas dans nos vies une obsession permanente, mais qu'il y ait de la place pour nous aussi dans ce dialogue et dans ce débat. La réponse de Dieu à notre demande est une parole. Certainement, c'est un acte qui va nous créer, nous sauver. Mais c'est aussi un acte de parole qui va nous laisser faire, qui va nous écouter. Une parole qui va nous laisser de la place, parce que l'homme n'est pas qu'une créature, c'est aussi il est appelé à être comme une sorte d'égal, ou de vis-à-vis, en tout cas, de Dieu. Et j'aurais tendance à penser que d'une certaine façon, le silence de Dieu est encore plus pour nous une preuve d'amour que sa parole. Parce que sa parole, il nous dit ce qu'il faut faire. Dans le silence, il nous accueille. Et que le véritable amour de Dieu se trouve dans son silence, dans son accueil, dans son écoute, dans sa présence. Et parfois, on dit, mais que fait Dieu devant telle catastrophe qui touche l'un ou l'autre ? Et certains chrétiens ont dit, mais ce que fait Dieu, c'est que il s'assied avec vous pour pleurer dans le silence. Peut-être est-ce vrai. Bien sûr, Dieu n'est pas que silence, parce que si Dieu n'était que cela, il ne serait pas grand-chose. Dieu ensuite aussi nous dit une parole. Mais c'est dans cette complémentarité entre le silence et la parole que, aussi bien dans notre vie que dans notre relation à Dieu, se tissent toutes choses. De même, le pasteur ne fait pas qu'écouter ses fidèles comme un psychanalyste. Le pasteur parle aussi à ses fidèles, et je crois que c'est important. Et en même temps, le pasteur ne fait pas en entretien que d'étourdir son patient avec des paroles dans tous les sens sans lui laisser le temps de s'exprimer. Et c'est également ce qui nous est dit dans cette belle vision de Jacob qui voit l'échelle entre le ciel et la terre. Et il comprend que l'essentiel, ce lien entre Dieu et l'homme, c'est comme une échelle avec des anges, c'est-à-dire des messagers, c'est-à-dire des messages, c'est-à-dire des paroles qui montent et des anges qui descendent. Et que la relation à Dieu est une relation faite de paroles et de silence, faite d'écoute et de ce que l'on dit, qui laisse de la place à chacun. Et c'est dans ce dialogue qui, sans arrêt, va entre Dieu et nous, à la fois fait d'écoute et de transmission, de paroles, de silence et d'action. C'est dans cette relation double de respiration, de souffle et d'inspiration que se tisse la possibilité de la vie et que se tisse la possibilité même de la création, d'une création respectueuse que Dieu nous offre. Alors certainement, c'est aussi bien dans les deux que nous pouvons trouver cette parole créatrice de Dieu, et c'est là non seulement une chance pour nous, parce que c'est la possibilité que Dieu nous crée, et que nous ayant créé, il nous laisse vivre. Amen.